je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre 46e émission, nous allons parler du duc de Montmorency, exécuté à Toulouse. Cette tragédie du XVIIe siècle, qui a opposé le prince à son roi, est une tragédie de la raison d'État. Cette histoire dont Toulouse a été le théâtre en 1632 est somptueuse, sinistre et édifiante. Le héros principal de cette tragédie est Henri de Montmorency, deuxième du nom. Il n'a que 37 ans, mais il est déjà chargé de gloire militaire et d'honneur. Gouverneur du Languedoc depuis l'âge de 13 ans, à la suite de son père, petit-fils et fils de connétable, il est le filleul d'Henri IV, amiral et maréchal de France, beau-frère du prince de Condé. En 1623, il a détruit devant l'île de Ré la flotte protestante commandée par le duc de Soubise. Il a aussi lutté pour le roi victorieusement contre les Huguenots du Midi et au Piémont. Il est duc et pair de France. Bel homme, ardent et fortuné, amateur de duels, il a deux passions, la guerre et l'amour. Après avoir eu de nombreuses conquêtes, il a épousé la filleule de la reine Marie de Médicis, Marie Félice des Ursins. Et, en dépit de nombreuses infidélités, il est très épris. Le duc réside habituellement à Pézenas, à la Grange des Prés. À Toulouse, il habite son hôtel proche de la trésorerie. Il y reçoit avec faste et a su se faire aimer par la population, les artistes et les poètes, comme Peyre Goudouli. Il est très attaché à sa province. En 1632, Toulouse connaît de mauvais jours. Après sa splendeur du siècle précédent, la prospérité que lui valut le pastel est depuis longtemps révolue. Les épidémies de peste de 1628 et de 1631, les inondations de la Garonne, les incendies l'ont appauvri. Tout le Languedoc souffre d'ailleurs et proteste contre les nouvelles mesures de taxation des impôts. Alors qu'ils étaient auparavant fixés par la province, les impôts sont désormais taxés par Richelieu. La rébellion contre l'autorité royale couve. Le duc d'Orléans, frère de Louis XIII, qui depuis les Ardennes complote et prépare une expédition dans la région de Béziers, en profite pour tenter de rallier à sa cause les méridionaux. Il n'aura pas grand mal. Montmorency, qui jusqu'à présent a toujours servi le roi, n'est pas aimé du cardinal. Il s'irrite d'ailleurs qu'après tant de services rendus à la couronne par lui-même ou les siens, on lui refuse de rétablir les privilèges fiscaux du Languedoc. Il se laisse donc convaincre par les partisans de Monsieur. Investi le 22 juillet d'un mandat impératif par les États provinciaux, réunis à Pézenas, il recrute 12 régiments d'infanterie qui vont se joindre aux troupes du duc d'Orléans. et affronter les armées royales qui, depuis la Guyenne, se dirigent vers Béziers. Elles sont commandées par le maréchal de Stromberg et le maréchal de Force. Leur nombre est de 2500 hommes contre les 1500 nobles de Montmorency. Fin septembre, les deux expéditions antagonistes croisent le fer aux environs de Castelnaudary. Bref combat au cours duquel Montmorency, blessé sur son cheval éventré par la mitraille, est fait prisonnier. Le maréchal a reçu 17 blessures. Il lui restait 5 balles dans le corps. Un coup lui aurait aussi traversé la gorge. Il ne semblait pas pouvoir survivre. Il se confessa, on le porta sur une échelle recouvert de manteaux. Les soldats qui le portaient baissaient la tête en cachant leurs larmes. Est désormais en place, la tragédie va commencer. Elle sera courte et rondement menée. Le 28 septembre, un carrosse entièrement fermé, escorté par des gardes à cheval, conduit depuis Castelnaudary Henri de Montmorency, les yeux bandés, à Toulouse, où il doit être soigné et incarcéré. En fait, le duc ne fait qu'une halte à Toulouse, juste le temps de prendre un bouillon. Le maréchal de Stromberg a eu vent, en effet, que les capitouls sont résolus de sauver le duc, à quelque prix que ce fût. On amène le duc à Lectoure, où pendant un mois, il est détenu, afin que la colère des Toulousains se calme et que le roi décide de son sort. Le 28 octobre, Louis XIII et Richelieu arrivent à Toulouse. Le lieu du procès semble surprenant et contraire au droit. Montmorency étant pair de France, il devrait comparaître à Paris, qui joue le rôle de cour des pairs. Ils s'installent à l'hôtel de la trésorerie en face de ce palais du Parlement. Pour punir les Toulousains de leur attachement au duc Félon, Richelieu fait loger l'armée du roi dans les maisons des notables de la ville et chez les parlementaires afin de tout contrôler. Richelieu choisit Toulouse afin de retirer des avantages pour sa politique. Il sait que les parlementaires du Languedoc sont favorables à Montmorency. Il voit là une occasion pour les rabaisser et les obliger à obéissance, les obligeant eux-mêmes à le condamner. Montmorency s'est rendu coupable de lèse-majesté au premier degré. Cependant, il reste à convaincre le roi, qui est indécis. De toutes parts, les grands du royaume font pression sur le roi, tout le temps. Contre ce crime gravissime, les lois du royaume ne prévoient que la mort. Le Parlement de Toulouse ne pourra pas tergiverser. D'une quelconque velléité, le cardinal fait mandater de Paris le garde des Sceaux pour le présider. Il reste à convaincre le roi, toujours indécis. Et les grands du royaume font part de tout le pays afin qu'il fasse clémence. Des pétitions et des interventions se succèdent afin de laisser la vie au prince. La reine, elle-même, prend la défense du duc et souhaite plaider auprès du roi sa rémission. Mais le cardinal lui rappelle que naguère, Henri offrait à la reine quelques-uns de ses trophées, et que la reine lui avait à son tour offert son portrait, serti dans un médaillon de diamant. Et si le roi savait ça ? Dès lors, la reine se tait, car Richelieu lui fait comprendre qu'elle est mal placée pour insister. Auprès du roi, Richelieu brandit la raison d'État, la nécessité de faire un exemple. En matière d'État, écrira-t-il dans son testament, il faut fermer la porte à la pitié. Pas de pitié pour le duc Félon, ni pour son épouse, la duchesse qui vient d'arriver à Toulouse, et qu'une lettre de cachet fait repartir aussitôt. La cause est entendue maintenant pour le roi, il ne reste que quelques modalités à accomplir. Le garde des Sceaux, l'Aubespine de Châteauneuf, étante ecclésiastique, ne peut dispenser un jugement de mort. Il lui faut une autorisation du pape. Cette dispense est obtenue rapidement par Richelieu. Les parlementaires toulousains refusent ce président étranger à leur cour, qu'on leur impose contrairement à tout usage. Une lettre de cachet les contraint à l'obéissance. Le 27 octobre, on amène Montmorency de Lectoure. On l'écroue dans la prison de l'hôtel de ville de Toulouse. L'instruction va commencer. Elle a d'ailleurs débuté le 16 et le 17 octobre par l'audition des militaires qui ont arrêté le duc. Les conseillers, Anne de Cadillac et Clément de Laïc, interrogent le 27 Montmorency, se comporte en accusé modèle, reconnaît la compétence de ce parlement toulousain contraint. Montmorency reconnaît sa faute et reconnaît le jugement du roi, sa participation à la révolte aux côtés de monsieur, frère du roi. Il admet avoir perdu et passe ses derniers moments avec son confesseur, le père Arnoux, supérieur des jésuites. L'instruction aura été très rapide. Le 28, tout est terminé et le 29 octobre, l'audience se passe sans l'accusé. Le roi et le cardinal ne sont pas dans la salle, mais présents dans la ville tout proche. Ils pèsent sur la sentence qui aura lieu le lendemain. Le 29 octobre, les parlementaires entrent dans la salle solennellement. La présence du cardinal proche des lieux se fait sentir. Il est aux aguets. L'accusé n'est pas dans la salle. Ce n'est que le lendemain que Montmorency comparaît. Il prête d'ailleurs serment sur un crucifix. Le garde des Sceaux lui demande de décliner son identité. Ce Lobespine de Châteauneuf étant le page de son père. « Mon nom, vous devez le savoir, lui dit-il. Vous avez mangé assez longtemps le pain de mon père. » Montmorency a refusé l'assistance d'un avocat et raconte lui-même son aventure sans rien inventer. Il sera condamné à mort et avoir la tête tranchée sur la place des Salins. On lui retire dès lors tous ses titres, mais ses biens ne seront pas confisqués. La foule est vite informée et se rassemble pour demander grâce. Louis XIII, redoutant une émeute, change le lieu de l'exécution. La cour de l'hôtel de ville semble plus sûre. Montmorency attend sa mort avec résignation. Il écrit à son épouse, lui renouvelant son grand amour et sa grande foi. Montmorency fut ainsi assassiné sous la statue de son parrain, Henri IV, dans la cour de l'hôtel de ville. Son corps, un temps à la crypte de la basilique Saint-Cernin, sera amené plus tard à Moulins, au couvent de la Visitation, avec son épouse. Mais le cœur de Montmorency est resté à Toulouse. Il fut transféré, avant la Révolution, dans l'église de la Daurade. Voilà donc un grand personnage dont nous nous devions d'évoquer la mémoire et qui honore, par son action de résistance, les valeurs de l'Occitanie. Ses propos ont été recueillis sur l'ouvrage « Les grandes affaires criminelles de Toulouse » de Roger Merle, chez Privat, 1978. Je vous remercie et à la prochaine émission. retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.